ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du lundi 8 février 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de Ça vaut le détour. Nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis dès midi. Une nouvelle édition qui débute, riche en actualités cette semaine. Je vous invite donc à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter avec le mot-clic CVLD ou @canal_m. Aujourd'hui, on se transporte en Mauricie et on découvre La Fenêtre, un centre d'immersion aux arts pour les personnes vivant avec une limitation fonctionnelle. On reçoit aussi Annick Larose, directrice de l'Association québécoise pour l'intégration sociale, pour leur chronique mensuelle. Elle nous présentera les grands dossiers de l'organisme. Dans l'actualité, ces derniers jours, vous avez peut-être entendu ce cri d'alarme concernant les coupures dans le financement des ressources intermédiaires et ressources de type familial. Ce sont des centres d'hébergement qui accueillent des personnes vivant avec des déficiences physiques ou intellectuelles, avec un TSA ou encore une problématique en santé mentale et nécessitant des soins soutenus. Plusieurs ressources au Québec font face à des coupures de 25 % à 50 % de leurs revenus, plaçant leurs résidents dans une position précaire. On en parle avec Jean-François Lisée, député de Rosemont et porte-parole du Parti québécois en matière de services sociaux. Mais pour commencer l'émission, on se penche sur les résultats d'une étude réalisée l'automne dernier portant sur l'accessibilité des commerces à Mont-Tremblant. Pour dresser ce portrait de l'accessibilité, je joins au téléphone Mme Karine Cloutier de l'Association de personnes handicapées Clair Soleil. Bonjour, Mme Cloutier.
Oui, bonjour.
Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter brièvement l'Association Clair Soleil?
Oui, l'Association Clair Soleil, c'est un organisme communautaire autonome qui est situé à Mont-Tremblant, donc qui œuvre auprès des personnes handicapées physiques et intellectuelles de la MRC des Laurentides. Puis, sa mission est de promouvoir et défendre les droits et les intérêts des personnes handicapées. Puis, on offre aussi un centre de jour, des activités et un camp de jour adapté pour les enfants.
Et donc, on parle d'une enquête qui a eu lieu à l'automne 2015.
Oui, exactement.
Quelle a été la motivation ou le coup d'envoi pour mener l'étude?
Bien, en fait, on voulait voir vraiment sur notre territoire qui est très commercial aussi, très touristique, mm-hmm. Combien de pourcentage avait sur l'accessibilité des commerces. Donc, on a vérifié les trois secteurs d'activité commerciale du territoire de la ville de Mont-Tremblant. Donc, le secteur Saint-Jovite, le village de Mont-Tremblant et la station Tremblant, la station de ski bien connue, bien mm-hmm. entendu. Oui.
Et donc, est-ce que l'enquête portait uniquement sur les commerces ou aussi, en général, ça pouvait inclure d'autres établissements touristiques?
Le rapport a vraiment été établi sur les commerces. Par contre, durant l'enquête, on est allé vérifier certains bâtiments, tels les bureaux de poste ou les bâtiments publics, pour s'assurer que tout était conforme.
Et combien de commerces ont été évalués?
On a évalué 362 commerces sur les trois territoires. Donc oui, c'est une belle étude.
Ben c'est un chiffre qui est assez impressionnant.
Oui.
Quels étaient les critères premièrement pour considérer qu'un commerce était accessible?
Donc d'abord, il y avait le stationnement adapté qui devait être bien identifié, situé près de l'entrée. Bien entendu, un parcours sans obstacle, donc du stationnement jusqu'à la porte, soit avec l'absence de marche ou une rampe d'accès. L'entrée qui devait être assez large et adéquate avec le seuil de porte, bien entendu. Adéquat pour entrer à l'intérieur. Puis la salle de toilette qui devait être adaptée, assez grande, puis posséder des barres d'appui. Donc, il y avait des facilitateurs aussi qui donnaient encore plus de points, si on peut dire. La partie de réception de billetterie d'accueil était abaissée, mm-hmm. ou s'il y avait une porte automatique, par exemple. Donc,
Est-ce qu'il y a certains secteurs qui ont obtenu des meilleurs résultats que d'autres ou c'est plutôt semblable?
Somme toute, c'est assez semblable. Par contre, la station Mont-Tremblant démontrait un peu plus de commerce adapté. Et le village de Mont-Tremblant arrivait en dernier là, avec seulement 14 % de ses commerces qui étaient adaptés. Donc, c'est pas...
qui sont accessibles. Et sinon,
oui.
On parle d'une moyenne d'environ 34 %, je pense.
Oui, exactement, sur le total global de l'accessibilité des trois secteurs, c'est ça.
Et qu'est-ce qui explique ce faible résultat?
Moi, les réponses qu'on me donnait, c'était par rapport à l'ancienneté des bâtiments. Donc, on a beaucoup de bâtiments qui sont difficilement adaptables parce que ça fait plus de 100 ans qu'ils sont là. Donc, les critères, les lois les protègent. Par contre aussi, j'ai senti les propriétaires n'étaient pas prêts à investir. Je parle des propriétaires des bâtiments. Par contre, les commerçants qui sont en location la plupart du temps souhaiteraient que ça soit autrement, mais ont peut-être de la difficulté là, à investir monétairement dans des rénovations, exactement.
Exact. Donc, on se renvoie un peu la balle.
Oui, exactement, malheureusement.
À ce moment-là. Et justement, mis à part peut-être l'ancienneté des bâtiments ou être en fait frileux sur l'investissement que des rénovations pourraient amener, est-ce qu'il y a d'autres raisons aussi qui ont été évoquées sur le manque d'accessibilité?
C'est pas mal ça. C'est vraiment le côté
vraiment
monétaire. Oui, exactement.
Donc, on y revient toujours à la question souvent du financement. Donc, on fait pas face nécessairement à des préjugés ou au fait qu'on ne perçoit pas les personnes handicapées comme des touristes ou des consommateurs potentiels. C'est vraiment plus...
Oui, c'est côté financier. J'ai senti vraiment une belle sensibilité de tous les commerçants qui me disaient d'accueillir certaines personnes vivant des formes de handicap. Mais je pense que la connaissance de ce que ça prend pour entrer à l'intérieur d'un commerce puis circuler convenablement était méconnue un petit peu. Certaines personnes disaient que oui, la personne peut entrer avec de l'aide, mais de façon autonome, c'était pas possible. Ou par exemple avec un fauteuil motorisé, c'était pas possible non plus parce que le seuil était vraiment trop haut. Donc c'est pas toujours adapté convenablement.
Non, c'est ça. Il y a une certaine éducation encore à faire.
Exactement.
Avez-vous quand même trouvé des exemples intéressants
Oui, mais en premier, les commerces avec bannière étaient vraiment bien adaptés. Je crois qu'ils ont des normes à suivre là, par rapport à ça. Puis c'est ce qui a fait vraiment pencher la balance. Côté des commerces indépendants, on a offert la palme d'or, argent et bronze, donc à quelques commerçants. Centre de santé dentaire Mont-Tremblant, restaurant Le Vieux-Four et restaurant La Lorraine. Donc, puis on a eu des coups de cœur aussi parce que c'est des commerces vraiment qui ont adapté leur lieu sans avoir d'exigence telle. Là, c'était vraiment de cœur pour accueillir la clientèle comme il se doit. Ouais.
Donc, il y a aussi certains qui sont proactifs.
Exactement.
Dans votre rapport, il y a aussi, vous soumettez des pistes de solutions, des outils, notamment l'élaboration d'une politique, d'un plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées, une publication d'un guide pratique d'accessibilité universelle, et vous incluez aussi des exemples de plans d'action de villes avoisinantes comme Blainville, Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme, plusieurs autres. Est-ce que pour vous, ce sont des exemples à suivre, les plans d'action de ces villes-là?
Oui, exactement, parce qu'il y a plein de détails qui peuvent vraiment changer la vie des personnes handicapées, tels que le déneigement, des trottoirs, des édifices, une aide financière aussi qui est apportée aux commerçants qui veulent adapter leur commerce. Donc, ça les motive, c'est une motivation supplémentaire pour accessibiliser leur commerce. Puis, c'est ça.
Puis, maintenant que vous avez remis votre part à la ville de Mont-Tremblant, qu'est-ce que vous espérez comme action de la part des élus?
Ben en fait, nous aimerions avoir dans la ville de Mont-Tremblant un plan d'action sur l'accessibilité universelle, autant pour les résidents que pour le touriste, parce que c'est une plateforme touristique importante, donc pour agrandir
le bassin.
Oui, exactement.
Le bassin potentiel de gens.
Puis finalement, comme je disais tout à l'heure, le programme d'aide financière aux commerçants qui serait une motivation supplémentaire pour aménager correctement les commerces. Finalement. Oui.
Et en terminant, Mme Cloutier, si on veut prendre connaissance des résultats de ce rapport sur l'accessibilité des commerces à Mont-Tremblant, est-ce qu'il est disponible quelque part en ligne où on peut peut-être en faire la demande?
Oui, exactement. Sur le profil Facebook de Claire Soleil, vous avez les informations. Puis sur notre site Internet, qui est le www.claire-soleil.webnode.fr. Donc, à cette adresse-là, les informations sont disponibles.
Et donc, j'invite nos auditeurs à pouvoir le consulter. Plusieurs statistiques intéressantes. Merci beaucoup, Karine Cloutier, de l'organisme de l'Association de personnes handicapées Claire Soleil. Merci d'avoir mené cette étude dans le village touristique de Mont-Tremblant.
Merci à vous. Merci.
C'est comme Chartres, c'est haut et propre, avec des nefs, avec des arcs, des corridors et des falaises. En février, la neige est rose comme chair de femme, et en juillet, le fleuve est tiède sur les battures. Vidange, boîte à déchets, US Parking. et un grand-père au regard bleu qui monte la garde. Il sait pas trop ce qu'on dit dans les capitales, l'œil vers le golfe.
Quoi, le tour de l'île, une reprise de Félix Leclerc. On en parlait en début d'émission des coupures subies par les ressources intermédiaires et de type familial. Le gouvernement verse de l'argent aux ressources intermédiaires plutôt que d'envoyer les personnes en institution. En 2016, la mesure de financement touche à sa fin et on craint la fermeture de certains centres d'accueil pour adultes. Pour bien comprendre le dossier qui est somme toute complexe, on joint au téléphone Jean-François Lisée, député de Rosemont et porte-parole du Parti québécois en matière de services sociaux. Bonjour, Monsieur Lisée.
Bonjour, madame.
D'abord, remettons-nous en contexte. Ce sont des ressources accueillant les usagers aux profils les plus lourds qui sont actuellement en crise. Oui. Qu'est-ce qui a causé le problème de financement?
Bon, alors il faut savoir que d'abord, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les ressources intermédiaires, les ressources en milieu familial. En fait, on a beaucoup parlé de la désinstitutionnalisation dans les années 90, quand les personnes avec des déficits importants ont été sorties des hôpitaux ou des centres publics d'hébergement. Où est-ce qu'ils sont allés? Essentiellement dans ces maisons. Ce sont des maisons ou des petits immeubles qui sont gérés par des individus qui ont une formation très variable sur ces questions-là. Beaucoup d'anciennes infirmières, par exemple, des infirmières à la retraite qui tiennent ces maisons-là, ils ont chez eux 2, 3, 4, 10 personnes qui ont soit des déficiences intellectuelles ou des déficiences physiques, des troubles du spectre de l'autisme, parfois un cumul de ces choses-là. Mm-hmm. Et les usagers sont là pour de très longues périodes. En fait, ils sont chez eux. La question du statut de ces ressources intermédiaires a été longuement débattue. Est-ce que ce sont des salariés? Est-ce que ce sont des travailleurs autonomes? Et finalement, en 2012, le gouvernement libéral de l'époque a négocié une convention collective avec ces quasi-salariés qui a satisfait, il y en a 8 000 de ces ressources intermédiaires et familiales au Québec. Il y a 36 000 usagers de toutes sortes. Pour la majorité d'entre eux, ils étaient satisfaits de la négociation, mais pour à peu près 500 ressources intermédiaires, les cas les plus lourds, eux, ils allaient perdre des revenus, à peu près 20 % de leurs revenus. Alors nous, au Parti québécois, quand on est arrivé au pouvoir, on a dit, bien, ça n'a pas de sens que ceux-là perdent leurs revenus, donc on va revoir le dossier et en attendant, on va maintenir leurs revenus au même niveau qu'il était en 2012 jusqu'au 1er janvier 2016, puis on va prendre le temps de négocier. Évidemment, on a quitté le pouvoir, les libéraux ont négocié, mais on fait en sorte que de ne pas régler cette question-là, et ce qui fait que dans quelques jours, le 15 février, pour 500 de ces ressources, ils vont avoir des coupures budgétaires importantes. Et il y en a déjà une dizaine qui ont fermé leurs portes.
Et est-ce que l'entente syndicale de 2012 a sous-estimé les besoins des résidents?
C'est très clair qu'ils ont sous-estimé les besoins de ces 500 résidences-là. Ce qui fait que, bon, en ce moment, il y a certains syndicats qui ont signé une nouvelle entente pour essayer de protéger ces gens-là, parce que la dynamique de la négociation, c'est que le gouvernement a dit, si vous signez, on va juste couper de 50 % votre mesure de soutien pour un an, puis ensuite, on va le couper complètement. Et il y en a d'autres qui ont dit, ben non, nous, on veut pas une coupe de 50 %, on veut régler cette question-là, donc ils n'ont pas signé, ce qui fait que le mouvement est un peu divisé. Moi, comme porte-parole de l'opposition, je me suis associé à un regroupement de ressources intermédiaires qui représente plusieurs des syndicats, mm-hmm. Mais à titre individuel, pour dire de toute façon, on ne fait pas confiance au gouvernement pour négocier ces choses-là parce qu'on voit bien que leur seul objectif y est budgétaire. Et donc, on demande de maintenir le financement là, au 15 février, de ne pas couper les chèques. Et pendant ce temps-là, on va demander à quelqu'un d'indépendant qui ne travaille pas pour le Conseil du Trésor puis pour les restrictions budgétaires, mais le commissaire à la santé et au bien-être, de faire un portrait de la situation et de recommander une grille de rémunération qui soit respectueuse des besoins des usagers et de la pérennité, de la permanence des ressources intermédiaires.
Oui, parce que justement, l'idée étant, c'est un milieu de vie, donc c'est sur le long terme qu'on vise en fait l'hébergement des personnes, notamment en situation de handicap. À long terme, s'il y a des ressources qui ferment, il faut relocaliser les gens. On parle de coûts humains, mais aussi d'impact économique. Est-ce que ça ne coûte pas plus cher de placer les personnes en institution?
Oui, c'est pour ça que c'est incompréhensible la façon dont le gouvernement gère ce dossier-là. D'abord, lorsqu'il y a des fermetures et des relocalisations, bon, il y a trois endroits où ils peuvent aller. D'abord, il est vrai que, en général, on demande aux ressources d'avoir des places libres, donc qui sont pleines à 85-90 justement pour pouvoir accueillir de nouveaux usagers. Alors, donc, il y a des places libres dans d'autres ressources où les usagers de ressources fermées peuvent aller. Cependant, il n'y en a pas suffisamment s'il fallait qu'il y ait des fermetures en grand nombre. Il y a des usagers qui sont envoyés à l'hôpital, dans des ailes psychiatriques ou en CHSLD. Puis à ce moment-là, comme vous le dites, ce sont des gens qui sont en déficience et donc pour eux, la routine, la sécurité, la stabilité est très importante. Donc, ils se décomposent à ce moment-là. Il faut les médicamenter davantage ou faire des contentions. Ils sont en... Le changement pour eux, c'est contre-productif. Et évidemment, s'ils vont à CHSLD ou à l'hôpital, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que de rester dans une ressource intermédiaire.
Et justement, à ce problème de financement, il y a aussi la baisse de classification qui sont dues aux pressions sur les centres intégrés de santé et services sociaux, les C3S. Pour répondre aux commandes budgétaires du gouvernement, ça aussi, c'est une sorte de problème. Ce sont des dommages collatéraux, en fait. C'est tout ça ensemble qui donne un dossier assez complexe.
Ben, ça empire. Alors donc, la nouvelle façon, avant 2012, la ressource intermédiaire, bon, les gens qui travaillent là, qui s'occupent de ces usagers, on disait, bon, vous travaillez tant d'heures par semaine, bon, on va vous payer tant d'heures par semaine. Mais là, avec la réforme, ils ont dit, bon, ben non, on va vous payer dépendamment du degré de difficulté de chaque usager. Il y a une grille de 1 à 5. À 1, ton usager est pas mal fonctionnel. À 5 ou 6, il est vraiment pas fonctionnel. Alors, à 6, on va te donner plus d'argent, puis à 1, on va te donner moins d'argent. Ben là, donc, il faut faire l'évaluation. Et donc, chaque année, il y a une évaluation qui est faite par quelqu'un du ministère de la Santé pour dire, ben voici la condition de tes usagers. Mais depuis 2 ans, les ressources intermédiaires disent, ben là, systématiquement, les évaluations baissent. Moi, j'ai l'impression que mon usager, il a la même difficulté qu'avant, mais là, ils viennent de me dire que non, il est en meilleure santé. Et en point de presse, la semaine dernière, j'ai montré dans un cas où tous les usagers, miraculeusement, en une journée, étaient devenus en bien meilleure santé. Évidemment, ça avait réduit d'un tiers le financement de la ressource. Et là, on voit bien qu'il y a des gens dans le réseau de la santé qui ont des commandes budgétaires. Puis ça, j'ai remis des documents aussi qui montrent qu'il y a des commandes de réduction des budgets pour les gestionnaires de ces programmes-là. Et ils doivent trouver des façons de sauver de l'argent. Puis une des façons, c'est de sous-estimer, donc de falsifier la condition médicale des usagers.
Et justement, parce que l'autonomie d'un usager est plutôt difficile à chiffrer, donc on se retrouve dans une situation, c'est dans un cul-de-sac, finalement, où est-ce que les usagers sont ceux qui perdent, ce sont les grands perdants de cette situation-là?
Tout à fait, tout à fait. Puis, de toute façon, ça les insécurise. Les usagers perdent, les gens qui ont fait en sorte de consacrer une dizaine d'années de leur vie à ces ressources intermédiaires-là sont aussi perdants. La pression est très forte sur les cadres de la santé. Moi, je pense que c'est pas de gaieté de cœur là que ces gens-là font ça. Ils font ça parce qu'ils ont des commandes budgétaires et ils essaient de les livrer. D'ailleurs, on me rapporte qu'il y a des évaluateurs qui refusent de continuer d'évaluer. Il y a des gens qui ont quitté leur emploi parce qu'ils n'acceptent pas ce qu'on leur demande comme tâche. Et c'est pour ça qu'il faut sortir ça complètement du ministère de la Santé et demander à quelqu'un d'indépendant. Parce qu'en plus, le système lui-même est très bizarre parce que si vous avez, disons, un usager qui est coté 5, Vous l'arrivez. D'abord, les 60 premiers jours sont payés moins cher qu'ensuite, ce qui est ridicule parce que c'est les premiers jours qui sont les plus difficiles, mais en tout cas, c'est une façon de payer moins cher. Et si vous traitez bien votre usager, vous le sécurisez, d'ailleurs, il y a des ressources qui regardent la médication avec un pharmacien puis qui enlèvent petit à petit de la médication pour stabiliser le patient. Et là, à l'évaluation l'année suivante, ils disent « Ah, il est passé de 5 à 3 grâce à vos bons soins, donc on vous enlève l'argent ». Alors, c'est le seul emploi où on vous punit lorsque vous travaillez bien.
C'est plutôt étonnant, effectivement, à entendre. Monsieur Lisée, on va terminer là-dessus. On est le 8 février. La mesure entre en vigueur à partir du 15 février. Il reste 7 jours. Qu'est-ce que vous allez faire ces 7 prochains jours pour empêcher le plus que cette mesure soit effective?
Bien, là, heureusement, on retourne à l'Assemblée nationale demain. Alors, il est certain qu'on va confronter les ministres responsables là-dessus. Parce qu'on n'a eu aucune réponse depuis qu'on a fait ces dénonciations-là au cours des 3 dernières semaines. Là, on est dans le compte à rebours et on espère qu'on va continuer à mettre la pression pour faire en sorte qu'ils bougent parce qu'ils se sont cachés derrière la négociation. Ce qui est fallacieux parce que sur les classifications, il n'y a pas de négociation, mais sur les coupes du 15 février, il y en a qui ont déjà signé, il y en a qui n'ont pas signé. Et donc, la négociation ne fait que très partiellement couvrir cette question-là. S'ils veulent offrir à ceux qui n'ont pas signé le maintien de leur budget et en plus de le donner à ceux qui ont signé, ben, très bien, on aura réglé une partie du problème.
On va vous offrir de revenir pour parler d'autres dossiers. On doit se laisser là-dessus. On va surveiller attentivement les développements de ce côté-là. Jean-François Lisée, député de Rosemont, porte-parole du Parti québécois en matière de services sociaux. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce midi.
Merci à vous. Bonne journée.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerleau.
De retour à Ça vaut le détour, vous pouvez réagir aux propos de nos invités sur les médias sociaux, sur Twitter en utilisant le mot-clic CVLD ou @canal_ M. J'accueille en studio Mme Annick Larose, directrice de l'AQUIS, l'Association du Québec pour l'intégration sociale. Bonjour.
Bonjour.
Donc, c'est votre chronique annuelle. On va vous retrouver annuelle.
Mensuelle. Je vais vous voir
plus souvent.
Mais c'est
la première de l'année.
Oui, c'est ça. Bon, voilà.
Je n'ai pas trop loin. Mais donc, on va vous recevoir à chaque mois pour parler de différents dossiers menés par l'AQUIS. Mais tout d'abord, présentons l'AQUIS.
Oui, bien, c'est ça. Comme première chronique, c'était ça que j'avais en tête, parce que, étant donné qu'on n'est pas tous qui nous connaissent. Donc, l'Association du Québec pour l'intégration sociale, on est une des vieilles associations. On a été créée en 1951. Donc, on est une fédération. On regroupe plus de 80 associations qui sont situées partout au Québec. On a un mandat de promotion d'intérêts et de défense de droits des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Donc, notre action est vraiment en lien avec la déficience intellectuelle. Donc, à la base, c'était des parents qui ont créé ce regroupement-là, bien, une association. Après ça, c'est devenu un regroupement. Pour vraiment développer, on se reporte en 1951. Hein, donc, quand on avait un enfant qui avait une déficience intellectuelle, à peu près automatiquement, il était placé en institution. Donc, l'AQUIS a été très, très, très impliqué au niveau de la désinstitutionnalisation, au niveau de plein de dossiers, au niveau de la participation sociale. Donc, vraiment, notre mandat, c'est de permettre aux personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle d'être le plus possible ancrées dans la société, dans une société qu'on veut inclusive, dans toutes les sphères de leur vie, que ce soit au niveau de la petite enfance, au niveau de l'intégration à garderie, à l'école, dans le travail, dans les loisirs, les transports. Donc, on est là dans tout, vraiment, toutes les sphères de la vie, là, comme on dit toujours, du berceau au tombeau, pour s'assurer, justement, que ces personnes-là ne soient pas lésées dans leurs droits et puis qu'elles puissent se développer à leur plein potentiel.
Et justement, 65 ans d'histoire.
Oui, tout à fait.
Donc, on a pu voir plusieurs changements dans les époques, dans les décennies sur l'intégration sociale des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Est-ce qu'on parle aussi de personnes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme?
Non, nous, c'est spécifiquement déficience intellectuelle, mais il faut savoir que dans le trouble du spectre de l'autisme, il y a quand même une trentaine de pourcents, 30% qui ont une déficience intellectuelle. C'est sûr que dans nos associations, dans certaines régions, il n'y a pas nécessairement de distinction. Ils accueillent également, mais nous, on travaille en déficience intellectuelle. Il y a l'équivalent de nous, qui est la Fédération québécoise de l'autisme.
Tout à fait. Qui est donc dans le but de développer justement un réseau d'entraide, finalement, de mettre des ressources en commun pour faciliter la participation sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Sur quel plan est-ce qu'on trouve vos actions? Comment est-ce que ça se manifeste?
Alors, on travaille beaucoup au niveau de la sensibilisation. Dans sa sensibilisation, je vous dirais même des décideurs, parce que pour plusieurs, on fait beaucoup de représentations politiques. Bon, je vous dirais que de ce temps-ci, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne veut pas nécessairement nous voir. On s'organise un peu pour ne pas nous voir. Je dirais que c'est de sensibiliser les décideurs, sensibiliser la population à la déficience intellectuelle. Donc, c'est encore pas très connu. Il y a beaucoup de hiérarchisation du handicap. Malheureusement, la déficience intellectuelle arrive souvent bon dernier. Dans la perception, soit on s'imagine que ce sont des personnes, il y a des préjugés, hein, beaucoup, qui entourent la déficience intellectuelle.
Lesquels? Les principaux qu'on rencontre?
Que ça reste des éternels enfants, qui ne sont pas capables de prendre des décisions, qui ne sont pas capables d'apprendre, qui ne sont pas capables d'évoluer. Que la plupart ont des troubles de comportement. Oui, certains ont des troubles de comportement, mais pourquoi qu'ils ont des troubles de comportement? Parfois, c'est aussi au niveau de l'accompagnement et tout ça. Donc, beaucoup de préjugés qu'on essaye de défaire notamment avec la Semaine québécoise de déficience intellectuelle. On a également un volet de formation. Formation tant au niveau des gens qui côtoient les personnes qui ont une déficience intellectuelle, même des professionnels. Par exemple, un médecin qui rencontre une personne qui a une déficience intellectuelle, parfois, il a besoin d'être sensibilisé à la déficience intellectuelle, comment qu'on approche cette personne-là. Donc, la formation également des parents pour bien qu'ils soient bien outillés, qu'ils soient formés également pour faire valoir leurs droits. Ça, c'est important. Donc, formation également au niveau, c'est quelque chose qu'on veut développer plus au niveau des personnes qui ont une déficience intellectuelle également, qu'elles prennent leur place. Il y a un volet également donc de représentation et de défense de droits. Donc, on s'assure et on est un peu les chiens de garde, je vous dirais, là, par rapport à ce qui se passe. Puis surtout en ce moment, là, avec ce qu'on vit par rapport à toute cette philosophie gouvernementale en ce moment, là, on voit des effets là, de diminution beaucoup auprès de la clientèle qui a une déficience intellectuelle, malheureusement. Il y a des effets.
On parle de diminution de l'intégration sociale.
Oui, bien, diminution de services, diminution de d'accompagnement, service. Fermeture de centres de jour. Là, M. Lisée parlait par rapport à tout ce qui est hébergement. C'est très préoccupant ce qui se passe. Donc, il y a vraiment des aspects. On a perdu du terrain également au niveau de l'inclusion scolaire. Donc, beaucoup plus de difficultés d'intégrer maintenant en milieu régulier, beaucoup de recul. Encore une fois, bon, il y a les compressions. Là, malheureusement, c'est ça qui arrive. Hein, quand on coupe dans les budgets, les premiers qui écopent, souvent, c'est les personnes qui sont plus vulnérables. Et là, je regardais même au niveau des CPE, on était très contents parce que ça allait quand même assez bien, l'intégration d'enfants à besoins particuliers dans les CPE. Puis là, avec ce qui se passe bientôt, les coupures qui s'annoncent, bien, est-ce que c'est eux qui vont faire les frais de ça? Mm-hmm. C'est ça qui est inquiétant parce que nous, c'est vraiment, on préconise beaucoup l'inclusion dans toutes les sphères parce que justement, quand un enfant va avoir un enfant régulier, va avoir eu un camarade qui a des besoins particuliers, un enfant trisomique, un enfant qui a une déficience intellectuelle, il va vivre avec cette personne-là et au niveau de la sensibilisation, c'est ce qui est le meilleur. Et éventuellement, peut-être que cet enfant-là va devenir un employeur puis qu'il pourra être ouvert à intégrer à l'intérieur de son équipe de travail une personne qui a une déficience intellectuelle. Donc, c'est vraiment, c'est pernicieux, ces coupures-là. Puis ça a un impact direct également sur la vie des parents qui, quand on regarde, par exemple, le peu de services qu'il y a après 21 ans, on en a parlé beaucoup, là, du trou, là. Bien, il est réel, ce trou-là. Il n'y a pas beaucoup de possibles pour un jeune qui sort de l'école à 21 ans qui a une déficience intellectuelle. Les possibles sont pas nombreux. Et puis pour la famille, mais parfois, ça se résume à ce qu'un des deux parents reste à la maison pour pouvoir s'en occuper. Et ça, c'est vraiment extrêmement dommage.
Et ça limite aussi la participation sociale des personnes qui entourent les personnes avec une déficience intellectuelle.
Bien,
donc,
oui,
c'est par ricochet.
Bien, oui, puis au niveau économique, c'est certain que si une personne... Donc, ça rend les familles beaucoup en situation de précarité. Donc, il faut s'y intéresser. Puis, c'est pas de perdre l'argent d'investir là-dedans. Au contraire, parce qu'une personne qui va être stimulée, qui va avoir été développée dans son plein potentiel, mais ça, on répète ça depuis des années, mais un jour, on va finir par rencontrer quelqu'un qui va y croire, que quand on développe justement le plein potentiel de la personne, bien, elle va beaucoup moins dépendre et va développer moins de problèmes de santé, tant au niveau de la santé physique qu'au niveau de la santé mentale, beaucoup moins de troubles de comportement. Donc, je pense que c'est de mettre les sous à la bonne place que d'investir là-dedans et de faire les coupures mur à mur et sans prendre en considération les personnes. Ça a un impact, peut-être pas sur un horizon électoral, mais sur un horizon à long terme. Alors, je pense que c'est aux décideurs, je les interpelle à faire quelque chose en ce sens-là et non pas d'avoir une philosophie de courte vue comme ils ont en ce moment.
Justement, cette réorganisation du système de santé, c'est quelque chose qui vous préoccupe énormément à la CIS.
Oui, parce que c'est une vision, je vous dirais... très médical, très autour, beaucoup de tout ce qui est santé. Donc, tout ce qui est services sociaux est laissé vraiment de côté. Et quand on parle de participation sociale, on est loin là, de l'aspect médical. Mm-hmm. Donc, c'est difficile d'imaginer qu'avec l'organisation telle qu'elle est présentement, qu'il va avoir un réel intérêt par rapport à la déficience intellectuelle. J'ai plutôt la crainte que ça va être dilué. En tout cas, on est prêt à avoir encore de l'espérance, mais disons qu'on regarde ça de près et disons que c'est des craintes. Parce qu'on en a vécu beaucoup à la CIS des réorganisations. Hein, puis,
oui, en 65 ans,
oui,
je présume que vous
en
avez vu plusieurs. Est-ce que vous croyez que cette tendance-là qu'on voit peut-être dans le milieu de la santé, de réorganisation, de coupure, de négligence peut-être, de certains besoins, est-ce que ça serait dû à encore cette perception médicale des gens qui vivent avec une déficience intellectuelle plutôt que d'avoir une perception de participation sociale?
Ah, c'est certain que le regard est très différent quand on regarde la personne au point de vue physiologique, puis au niveau de juste de voir, de répondre juste à son besoin de santé, puis de pas nécessairement voir, mais c'est quoi le développement qu'on peut faire. En tout cas, j'ai une petite expérience de côtoyer le plus le monde médical avec... parce que je suis moi-même parent d'une personne qui a une déficience intellectuelle. Donc, la perception du monde médical, notamment par rapport à la trisomie, on ne peut pas dire qu'elle est excellente. Donc, mm-hmm. C'est quoi le plein potentiel d'une personne qui a une trisomie? Je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de médecins qui sont capables d'évaluer ça. Donc, je pense qu'il faut sortir de cette vision-là très d'hôpital là, et puis mm-hmm. de dire bien, il faut mettre des ressources ailleurs et les parents exigent, veulent avoir des ressources spécialisées, mais qui sont de qualité, pour développer le plein potentiel et non pas juste pour répondre à des feux. Parce que malheureusement, on a cette mauvaise habitude-là qu'on va s'occuper d'une personne seulement lorsqu'elle va avoir développé des troubles de comportement, quand elle va avoir eu des graves problèmes, mais quand c'est pour le développement, pour s'assurer puis pour prévenir
ces situations-là,
bien là, il n'y a personne. Là. On ne considère pas que c'est un besoin. Alors moi, je commence à devenir un peu allergique à ce terme-là, besoin, parce que parfois, on l'évalue en fonction de ce qu'on est capable d'offrir et non pas sur le réel, le plein potentiel de la personne.
Mm-hmm. Annick Larose, merci beaucoup.
Ah, ça passe vite, hein? On en aurait des choses à dire.
Mais voilà, on va se garder du matériel pour vos prochaines chroniques.
Oui, qui vont être très orientées sur ce qu'on travaille à la KIS par rapport à nos activités avec nos membres, avec la Semaine québécoise, Forum sur l'emploi qui se prépare au printemps. Là, donc, il va y avoir des choses à dire là-dessus.
Ça bouge de ce côté-là. On va être très heureux de vous recevoir à nouveau pour une chronique mensuelle de la KIS, l'Association du Québec pour l'intégration sociale. Annick Larose, vous êtes la directrice. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci. Au revoir.
Bon, y a de moyen de job, faut que je fasse mes paiements. Amener ma blonde au restaurant, puis checker les numéros gagnants. Bon, y a de moyen de job, je vais payer le loyer du mois passé. Je vais brancher le téléphone, les collecteurs vont pouvoir me retrouver. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, laisse-moi pas tomber. Bon Dieu, donne-moi une job, prête à commencer en bas de l'échelle. Je peux pire avec les chiffres, puis je sais me servir de ma cervelle. Bon Dieu, donne-moi une job, puis je te jure que je vais me caser. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, laisse-moi pas tomber. Bon Dieu, donne-moi un job, je veux travailler avec le public. J'suis bon vendeur, j'arrive à l'heure, pis j'bois moins qu'un alcoolique. Bon Dieu, donne-moi un job, j'suis prêt à bûcher comme un viette. Il faut que j'fasse de quoi de moi, j'suis tanné d'attendre après mon chèque. Pis si jamais tu me donnes un job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, laisse-moi pas tomber. Bon Dieu, donne-moi un job, n'importe laquelle ferait mon affaire. N'importe où, n'importe quand, pour me sortir de mon calvaire. Bon Dieu, donne-moi un job, j'envoie mon CV à Saint-Pierre. Parlez-y de moi, si vous voulez, un pourcentage sur mon salaire. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, laisse-moi pas tomber, car une fois. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, laisse-moi pas tomber. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, laisse-moi pas tomber. OK.
Bon Dieu, des colocs sur le mythique album Atrostomique, paru en 93, ça fait déjà si longtemps. On joint au téléphone Madame Lola Noël, directrice générale de La Fenêtre, un centre d'immersion aux arts pour les personnes vivant avec une limitation fonctionnelle. Bonjour Madame Noël.
Bonjour.
Donc, on va commencer tout de suite, en fait, à parler de La Fenêtre, de ce centre. Vous êtes situé à Trois-Rivières. D'abord, décrivez-nous la mission de La Fenêtre.
Alors, La Fenêtre est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'offrir des ateliers d'art à des personnes ayant des limitations fonctionnelles, que ce soit des limitations physiques ou intellectuelles, et aussi à des personnes qui ont certaines problématiques de santé mentale.
Donc, c'est vraiment dans une perspective inclusive.
Tout à fait, tout à fait.
Et quel type d'activité est-ce qu'on peut y retrouver?
Alors, on parle d'art, on fait à peu près tout ce qui est possible de faire en art. Je m'amuse souvent à dire que le seul qu'on fait pas, c'est l'architecture. C'est pas manque d'intérêt, c'est manque de place. Alors, on a des ateliers de théâtre, de chant choral, de peinture, d'art plastique, de travail du verre. Et occasionnellement, s'ajoutent à ces ateliers réguliers, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des multi-arts, c'est-à-dire de courtes sessions de 4 cours. Et là, on peut imaginer n'importe quoi, là, que ce soit de la sculpture, que ce soit de la poterie, que ce soit tout ce que vous pouvez imaginer, il passe selon le désir des participants.
Est-ce que ce sont de grands groupes de participants ou ça va plus être des petits ateliers en groupe restreint?
C'est en groupe restreint, habituellement, dépendamment de l'atelier, le maximum de participants qu'on reçoit à la fois, c'est 15.
Tout de même, ça permet quand même aux participants d'échanger sur leurs expériences et de se construire un réseau aussi. J'imagine que ça fait partie des objectifs de la fenêtre.
Tout à fait. Nous, on met beaucoup l'accent sur l'inclusion, comme vous le disiez tantôt, sur la socialisation et sur l'intégration dans le milieu culturel. Parce que c'est important pour ces gens-là de savoir qu'ils font partie d'un milieu. Et dans notre cas, évidemment, puisqu'on parle d'art, on parle du milieu culturel. Alors, c'est pour ça que régulièrement, on va présenter des expositions de leurs œuvres ou des spectacles de qu'ils ont monté, soit de chansons ou de théâtre, et ça, on en a à tous les ans.
Donc, vous avez tissé des partenariats avec le milieu culturel de Trois-Rivières?
Oui, tout à fait. Entre autres, avec les Musées québécois de culture populaire, qui est un partenaire là, depuis 2 ans, où on a fait beaucoup d'activités, et où, en ce moment même, on a une exposition qui est très, très belle. Et je le dis pas parce que c'est mon organisme, mais parce qu'elle est très, très belle. C'est une exposition en 2 volets, dont un est consacré aux arts plastiques et qui s'appelle Le Messager, et l'autre volet est consacré au travail du verre et elle a pour titre D'instinct et d'éclat. Et cette exposition-là a été inaugurée mardi dernier et va se poursuivre jusqu'au 3 avril prochain.
Jusqu'au
3
avril.
Et elle est gratuite en passant.
On aime toujours ça, donc c'est un incitatif aussi à découvrir les œuvres des gens qui viennent à la fenêtre. Qui sont les formateurs ou les professeurs qui donnent les ateliers? Est-ce que ce sont des professionnels du milieu culturel aussi?
Oui, ce sont des professionnels du milieu culturel, mais chez nous, les enseignants doivent avoir ce que j'appelle le double profil, c'est-à-dire être un artiste dans son domaine. Par exemple, notre professeure en peinture est une artiste peintre reconnue dans les galeries, mais elles doivent aussi avoir un profil d'enseignante. Alors, la majorité ont un brevet d'enseignement en art, bien entendu. Alors, c'est ce que j'appelle le double profil.
Et est-ce qu'il faut une formation particulière autrement ou on peut venir, même si on n'a jamais travaillé, par exemple, avec des personnes en situation de handicap, on peut venir présenter des ateliers où il y a des... Est-ce que c'est des secteurs mixtes qui viennent ou c'est vraiment...
Oui, je vous parlais tantôt des multi-arts. Alors là encore, ce sont des artistes. Je prends pour exemple le dernier multi-art qu'on a eu, qui était un atelier de sculpture. Mm-hmm. Alors c'est un sculpteur qui est venu donner l'atelier, qui n'avait aucune expérience d'enseignement auprès de personnes ayant des limitations, mais je peux vous dire que ça s'est très, très bien passé. C'est évident que nous, ici, quand ça arrive, qu'on a des professeurs de l'extérieur, ben on les appuie du mieux qu'on peut. On a entre autres une accompagnatrice qui est là pour aider les participants qui ont des difficultés, mais parfois aussi ça aide le professeur.
C'est un soutien des deux côtés.
Exact.
Quels sont les bienfaits que vous remarquez de l'art pour vos participants?
Je vous dirais que les bienfaits, ils sont infinis. J'ai une multitude d'exemples en tête, là. Des gens, par exemple, qui sont arrivés ici avec le moral complètement défait parce qu'ils venaient d'apprendre que ils seraient condamnés à un fauteuil roulant le restant de leur jour et qui étaient vraiment, là, à la limite d'être suicidaires. Et on les regarde aujourd'hui, ils sont épanouis, ils sont heureux, ils sont créés des amis, ils ont des contacts sociaux, ils participent aux activités. C'est un changement radical pour plusieurs de ces personnes-là. Pour d'autres, ça va être de sortir de leur isolement parce que malheureusement, encore aujourd'hui, trop souvent, ces personnes-là sont isolées complètement, ont pratiquement pas de famille, n'ont pas d'amis. Alors ici, à la fenêtre, ils rencontrent des gens qui ont des difficultés semblables aux leurs, mm-hmm. et il y a des amitiés qui se créent. Ça, c'est un bienfait incommensurable. Je pourrais vous dire aussi qu'au niveau de l'estime de soi, de revenir à créer des choses qu'on va aller vendre au public ou qu'on va aller présenter sur une scène de théâtre, au niveau de l'estime de soi, inutile de vous dire que ça rehausse spontanément quand vous réussissez à faire ça. Alors, il y a plein de bienfaits comme ça, mais nous, c'est important de préciser qu'on ne fait pas ce qu'on appelle de l'intervention au niveau médical. Mm-hmm. Il y a des choses qui se font, mais spontanément, sans qu'on agisse au niveau de l'intervention. C'est une conséquence directe des ateliers d'art, mais uniquement des ateliers d'art.
Et justement, on parle beaucoup d'exposition d'art visuel. Il y a aussi le chant, le théâtre. Est-ce que dans les dernières années, parce que, bon, vous avez été fondé en 98, ça fait quand même un certain temps, est-ce que vous avez vu certains artistes émerger et qui, grâce à la fenêtre, se sont découverts une passion ou même un talent et continuent de créer, même de voler de leurs propres ailes?
Écoutez, moi, je suis en poste ici depuis presque 5 ans maintenant et malheureusement, je suis obligée de répondre non à votre question. Cependant, on a des gens qui sont ici depuis 7, 8, 10 ans et qui continuent d'année en année à suivre des cours de chant ou de théâtre. Et je pense que l'important, le but visé, pas nécessairement de faire ici des vedettes ou des artistes professionnels, c'est de donner à ces gens-là l'occasion de s'exprimer et de créer à leur rythme et selon leur bon vouloir.
Et donc, est-ce qu'il y a une session actuellement qui est en cours?
Oui.
Comment ça fonctionne si on est intéressé à suivre certaines activités de la fenêtre?
Ben, vous téléphonez tout simplement, vous demandez, on va vous expliquer quelles sont les activités qui peuvent vous être offertes en ce moment. Selon votre choix, on va vous inviter à venir nous rencontrer, à assister à un atelier pour voir si ça vous plaît vraiment, si ça correspond à ce que vous cherchez. Et une fois ça, si la réponse est positive, ben vous vous inscrivez et vous commencez les cours, tout simplement.
C'est aussi facile.
On
peut tous y participer.
Tous.
En terminant, est-ce que actuellement, il y a combien de personnes qui suivent des cours? On parle de février 2016, combien de personnes suivent des cours à la fenêtre?
Oh, le chiffre exact, je pourrais pas vous dire, mais bon an, mal an, on reçoit ici entre 100 et 125 personnes. Et ça, c'est seulement dans nos locaux au centre-ville. Parce qu'en plus, on donne des cours, entre autres, à Louisville, parfois à Nicolet ou à Shawinigan. On en donne également dans des écoles spécialisées pour enfants handicapés. Mais seulement dans nos ateliers là, au centre-ville, c'est entre 100 et 125 personnes par année.
Et Madame Noël, vous le disiez en début d'entrevue, vous êtes un organisme à but non lucratif.
Exact.
Comment fait-on en fait pour soutenir autant d'activités année après année?
Ben, je veux dire qu'on fait de gros efforts pour aller chercher du financement au moyen de nos événements de financement, justement, entre autres, tous les ans, au début décembre, on fait une vente aux enchères d'œuvres d'art grâce à la générosité des artistes de la région qui nous donnent gracieusement certaines de leurs œuvres. Mm-hmm. Cette année, ça a été un franc succès, la vente aux enchères. C'était une année record au niveau du montant qui a été recueilli, que des œuvres qui ont été données. On fait aussi, grâce au groupe Investors, un tournoi de golf. Et d'année en année, on essaie toujours d'ajouter une activité de levée de fonds là, qui varie d'une fois à l'autre. Mis à part ça, il y a la Ville de Trois-Rivières qui nous appuie aussi, s'entraide, et quelques autres petites subventions. Mais honnêtement, on doit toujours courir après l'argent.
C'est malheureusement, ça fait partie de, c'est ça, ça fait partie du mandat, finalement. Et Lola Noël, vous êtes directrice générale de La Fenêtre, un centre d'immersion aux arts pour les personnes vivant avec une limitation fonctionnelle. Merci beaucoup d'avoir présenté votre organisme aujourd'hui.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Merci.
Au revoir.
Merci. Si on veut plus d'informations, on peut aller à lafenêtre3r.org. On va mettre tous les liens vers les organismes qu'on a présentés aujourd'hui sur la page de l'émission. Je remercie mes invités qui étaient avec moi, donc Lola Noël, Annick Larose de l'AQIS, Jean-François Lisée, député de Rosemont et porte-parole en matière de services sociaux pour le Parti québécois, et Karine Cloutier de l'association Clair Soleil. Je remercie évidemment mon équipe technique à la recherche et aux médias sociaux, Christiane Campagna, à la mise en onde, Jean-Sébastien Laliberté. C'était Maxime Despomerleaux pour une autre édition de Ça vaut le retour. Ça vaut le retour. On est de retour demain. Ça valait le détour aujourd'hui. On se revoit bientôt. Merci beaucoup.